Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour. En 1797, alors que la France n'a pas encore terminé sa révolution, François-René de Chateaubriand publie son essai historique sur les révolutions anciennes et modernes, considérées dans leur rapport avec la Révolution française. Chateaubriand est le plus souvent associé au statut d'écrivain initiateur du mouvement romantique plutôt qu'à celui d'homme politique. Pourtant, c'est oublier tout d'abord le contexte dans lequel il vécut, une monarchie renversée par une révolution terminée par un empereur lui-même remplacé par un nouveau monarque. C'est oublier également que Chateaubriand fut un écrivain prolixe sur la question politique, au point où le roi Louis XVIII, à propos de son livre de Buonaparte et au Bourbon, déclara « Ce livre de Chateaubriand fit plus pour la restauration monarchique qu'une armée de 100 000 hommes ». Comme nous allons le voir, il n'est pas osé de faire de Chateaubriand un penseur politique en une époque tourmentée. Quelle fut cette pensée politique? Chateaubriand a-t-il pu la mettre en œuvre et influencer son époque? Bref, et enfin, quel rôle politique eut l'auteur du génie du christianisme? Eh bien, pour nous éclairer sur ce sujet, Un jour dans l'histoire reçoit Jean-Paul Clément. Jean-Paul Clément, bonjour.
Bonsoir.
Alors, vous êtes professeur à l'Université de Bâle, correspondant de l'Institut de l'Académie des sciences morales et politiques, oui. Dans la section morale et sociologie. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la question. Je citerai une biographie, tout d'abord, de Chateaubriand, parue aux éditions Flammarion, et ainsi dans la collection Découverte Gallimard. La collection Découverte Gallimard publie des petits albums en images fort pédagogiques. Chateaubriand, des illusions contre des souvenirs. Alors, Jean-Paul Clément, c'est au cours d'un voyage en Amérique que Chateaubriand se découvre la vocation d'écrivain, mais, et là nous sommes au cœur de notre sujet, il commence sa carrière littéraire en auteur politique, au fond.
On peut dire cela, mais il est déjà politique dès 1786-87. Lorsqu'il, issu d'une très vieille famille aristocratique, bretonne, tombé dans l'obscurité, puis relevé par le père, très attaché, comme le fils d'ailleurs, bec et ongle, aux prérogatives de la noblesse, Chateaubriand participe à une réunion, aux réunions particulièrement houleuses des États de Bretagne. Les États de Bretagne étaient parmi les plus aristocratiques de France. Et là, eh bien, on voit déjà comme une sorte de pré-révolution. Grenoble en est un autre exemple. Les États de Bretagne, qui sont majoritairement aristocratiques, où le tiers-État n'a qu'une influence très limitée, une représentation surtout très limitée, eh bien, veulent respecter les formes traditionnelles de désignation aux États généraux de 1614. Et donc, il leur assure la prépondérance.
Quelle était la position politique de ses parents?
Alors, les parents, le père en particulier, étaient très attachés aux traditions de son ordre. Les parents, les proches, la famille de Bédé, par exemple, l'un était fort gros, qui était Bédé l'artichaut, l'autre très maigre, Bédé l'Asperge, eh bien, tous siégeaient aux États de Bretagne et défendaient une vision qu'on pourrait dire d'aristocratisme libéral, en tout cas marquée par une forte opposition à ce qu'on appelait à l'époque le despotisme ministériel, de Calonne, de Necker, de Turgot, et défendant, encore une fois, les privilèges, les libertés de la province de Bretagne, avec une ardeur extraordinaire. La famille de Chateaubriand a été mêlée, et les BD en particulier, à l'affaire Lachalotais. Alors, je dirais peut-être un mot, si vous le voulez bien. Lachalotais était procureur général au Parlement de Bretagne. Il y avait une alliance très étroite entre le Parlement et les États de Bretagne, tous deux défendant, encore une fois, leurs privilèges. Et Lachalotais avait mené une fronde, car on est frondeur dans la famille et dans ces familles parlementaires et aristocratiques, et donc avait mené une fronde qui s'est terminée fort mal, puisque Lachalotais s'est trouvé, fort mal pour lui, puisqu'il s'est trouvé enfermé à Saint-Malo. La famille de Bédé s'en est mêlée, a prétendu qu'il y avait une intrigue, qu'on voulait la mort de Lachalotais. Il est sorti de tout cela martyr. C'est l'époque où vraiment Raynal ou d'autres sont des martyrs de la liberté. Et on voit en effet que dans cette période, eh bien, les Chateaubriands sont vraiment de ce parti-là, le défendent. Et par la suite, Chateaubriand défendra lui-même aussi une vision qui restera aristocratique, je crois, jusqu'au bout. Cette sorte de refus de la... Il ne parle pas du peuple, mais de la foule. De tout ce qui peut et tocquevillienne, pré-tocquevillienne aussi, de tout ce qui est la masse, l'uniformité, les différents, tout ce qui est contraire aux différences et à l'ordre qu'il a toujours défendu. Et en même temps, nous allons en parler, je pense, mais une extrême lucidité sur le temps. Il sait que les temps sont révolus et que la révolution va provoquer un grand partage. Il y aura une ancienne France et une nouvelle. Et donc, cette première manifestation est effectivement celle du représentant, cadet d'ailleurs, d'une vieille famille bretonne qui a reconquis, grâce au père, une fortune qui n'est pas considérable non plus, mais le père a racheté une seigneurie, Combourg, qui appartenait au duc de Duras, qui était lié plus ou moins à la famille. Donc, une seigneurie, la plus crottée de France, dit Jung, qui passe par là, où les paysans sont les plus malheureux, où nous sommes à 15 ans de la Révolution, 10 ans, 15 ans, eh bien, on voit le père ranimer auprès de ses vassaux, mais quand on entend vassaux, ce sont les paysans, les villageois de sa seigneurie, eh bien, toutes sortes de vieilles traditions, de fêtes, la quintaine, toutes sortes de fêtes féodales qui sont là pour rappeler constamment la prééminence du seigneur et la subordination des vassaux. Et c'est une vision qui est une vision, pourrait-on dire, fénelonienne.
Alors, bon, nous avons planté ce décor, ce contexte. Nous arrivons, si vous le voulez bien, Jean-Paul Clément, en 1797. Il publie cet essai. Pourquoi ? Pourquoi d'abord écrire sur la Révolution française ?
Alors, vous me permettrez de faire encore un petit préambule en répondant à votre question. Il a commencé par les lettres et la poésie. Il a publié dans l'Almanach des Muses des poésies, il faut bien le dire, assez médiocres. Et donc, cette vocation d'écrivain, elle naît sans doute sous l'influence de sa sœur Lucille, qui dit « mais tu devrais écrire tout cela », mais aussi, je crois, des événements. Qu'a-t-il vu ? Eh bien, il a vu Malesherbes, qui était par alliance le grand beau-père de son frère, Jean-Baptiste, qui avait épousé donc une Rosambeau. Il fréquente les salons littéraires de l'époque, grâce à sa sœur aussi, Judith Farcy, mais surtout de Malesherbes, qui exerce pour lui une grande influence. Lui donne le sentiment, justement, à la fois de l'esprit du temps dont il s'imprègne. C'est un rousseauiste, voltairien peut-être moins, mais rousseauiste en tout cas. Et on sait que Malesherbes entretient une correspondance avec Jean-Jacques Rousseau. Il s'intéresse aussi au voyage, à la botanique, tout ce qui sont les centres d'intérêt de Malesherbes. Et sur les conseils de Malesherbes, il va quitter pour un temps, c'est-à-dire pour 6 mois, la France, et visiter le nord-est des États-Unis. On a mis souvent un peu en cause l'exactitude de son grand périple. Non, il n'est pas allé jusque l'embouchure du Mississippi. Mais il est resté vers le nord. Il a vu ce qui était en fait l'Union américaine à l'époque. c'est-à-dire composé d'une quinzaine d'États, pas plus. Et là, qu'a-t-il vu ? Eh bien, deux sociétés, et c'est là que le Chateaubriand est un découvreur objectif, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à la coexistence et même à l'affrontement entre deux sociétés qui vivent l'une refoulée, l'autre conquérante, la société des colons protestants, les villes de Boston, de Philadelphie, de Baltimore qu'il visite, où il retrouve d'ailleurs, en bon Rousseau est ce qu'il est, eh bien, la corruption de la vieille Europe. Le mot « vieille Europe » est déjà prononcé. Et puis, les Indiens. Et il y a presque les prémices d'une vocation d'ethnologue. Comment vivent ces sociétés amérindiennes, enfin, ces sociétés d'Indiens ? Quelles sont leurs organisations, leurs religions, leurs rites, le rite de passage ? Comment un adolescent devient-il un adulte ? Comment s'organisent, se préparent les mariages. Donc tout cela était fort intéressant, a été repris dans les Mémoires d'Outre-Tombe, mais aussi dans son voyage en Amérique, qu'il publie en 1827. Et j'ai eu l'occasion d'entendre Claude Lévi-Strauss dire que cette vocation d'ethnologue lui était venue à lui en lisant Chateaubriand. Donc, il y a cela qui l'intéresse.
On ne peut s'empêcher de penser à Tocqueville, au fond. On se dit, oui. Les voyages aux États-Unis qui créent des écrivains et des penseurs politiques.
Ben oui, c'est une sorte de transformation. Il quitte une vieille Europe qu'il estime corrompue, une révolution qui commence mal alors qu'il est favorable à la révolution, puisque c'est un lecteur de Jean-Jacques Rousseau, de Montesquieu et de beaucoup d'autres. Mais le premier élément, je crois, qui l'en détourne, c'est à la fois la grande hostilité de Malesherbes, qui se manifeste aujourd'hui, mais vraiment, ce sont des barbares qui sont en train de renverser l'ancienne société. Et puis, le premier sang versé, il est dans un hôtel, rue du Mail, avec sa sœur, Lucille, et que voit-il passer deux têtes, au bout d'une pique. Ce sont les premières victimes de la Révolution, Berthet de Sauvigny, l'intendant de Paris, et Foulon, qui a été un éphémère. La preuve en est, puisqu'il est resté 300 heures au gouvernement. Celle de Foulon, qui avait été prévôt des marchands. Et il voit ces deux macabres effigies passer sous ses fenêtres. Et il dit avec beaucoup de courage d'ailleurs, parce qu'on aurait pu très bien enfoncer les portes et le prendre lui aussi, il dit « Est-ce ainsi que vous entendez la liberté ?» Et je crois que c'est un mot qui reviendra constamment dans le langage politique de Chateaubriand. « Est-ce ainsi que vous entendez la liberté ?» Mais il le dit aux révolutionnaires de 89, nous sommes vraiment là la veille de la prise de la Bastille, il le dira aussi au roi. « Est-ce ainsi, dira-t-il à Charles X ?» d'autre forme, que vous entendez la liberté. Donc, le voyage en Amérique est une grande découverte à la fois d'une société toute nouvelle, républicaine, alors que lui ne connaît que la monarchie, ne connaît que dans cette monarchie que l'opposition traditionnelle de sa vieille province bretonne, ce vieil enracinement qui le fait viscéralement hostile au pouvoir absolu, à la monarchie absolue, qu'il déteste toujours et qu'il ne cessera de détester, les études historiques de 1831 le montrent. Et puis, de l'autre côté, une jeune république américaine dont il pressent qu'elle aura une influence considérable sur l'avenir du monde et pas seulement sur l'avenir des États américains. Donc, tout cela est une expérience brève, mais l'une des particularités de Chateaubriand, c'est de saisir très vite. Nous parlions de Tocqueville il y a quelques instants. Tocqueville, lui, est aussi un historien, un sociologue. Sa démocratie en Amérique reste un livre majeur. Chateaubriand, lui, progresse par fulgurance. Il a des intuitions. Il devine qui est encore découvert, si je puis dire, par les événements, parce que serait un petit peu l'écume du temps, des épisodes. Mais il a des intuitions et qu'il ne fera que développer de son voyage en Amérique, qui sera constamment nourri par des lectures, par des conversations. Eh bien, on va jusqu'aux pages finales, qui sont un visionnaire des Mémoires d'Outre-Tombe.
Cette intuition le rend beaucoup plus accessible à la lecture, non ?
Bien sûr, bien sûr. C'est très rapide. Il a vraiment des formules étonnantes. Par exemple, il dira, mais Louis XI est venu faire, je dis ça de mémoire, l'apprentissage du jacobinisme sur les ruines de la féodalité. Mmh. Donc, il y a des formules tout à fait étonnantes, et puis d'autres lacunes, mais il sait très bien comprendre l'esprit du temps. Et lorsque vous parlez de 1797, bon, rappelons simplement qu'après 1791, il rentre, on le marie, il n'y a pas d'autre mot, deux fois devant un prêtre insermenté, puis devant un prêtre constitutionnel. Bien, sa femme est Céleste Buisson de la Vigne, elle appartient au milieu très, 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 très opulent des armateurs de Saint-Malo, et tout est organisé par la mère, la fille. Bien, il se laisse marier. Il rentre, après être passé par la maison de son beau-père, qui existe encore près de Saint-Malo, les Chênes, à Paris. Et cela se passe quelques jours, quelques semaines plus exactement, avant les massacres de septembre. Mmh. Et là, bien il faut le dire, je ne sais pas si Chateaubriand est un ingrat, mais il laisse sa famille là, et il décide de rejoindre son frère en Belgique, dans les Flandres, et de s'associer à l'armée des émigrés, c'est-à-dire l'armée des princes, qui est à Coblence, en fait, il passe par Trèves, et puis Coblence, et là, il va se mettre sous les ordres de l'armée du prince de Condé.
Alors, quelle attitude politique va avoir Chateaubriand ? C'est ce que nous verrons, si vous le voulez bien, Jean-Paul Clément, dans un instant.
Canal Académie. Vous écoutez Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Jean-Paul Clément, auteur d'une biographie de Chateaubriand parue chez Flammarion en 1998. Et nous évoquons un Chateaubriand moins connu qui est le Chateaubriand politique, autour notamment de son ouvrage paru en 1797, un essai sur la Révolution. Alors, je reviens à ma question originelle,
oui,
Jean-Paul
oui.
Clément. Pourquoi avoir commencé par un essai sur la Révolution ?
Parce que je crois que Chateaubriand, sans doute, est un écrivain, mais il est aussi, ce sont les doubles faces, cette sorte de Janus, mais il est aussi un écrivain politique, un essayiste, et je crois que les deux passions de sa vie sont sans aucun doute l'écriture, bien sûr, les mémoires d'Outre-Tombe en sont la preuve, mais aussi la passion de la politique. Il dit à un moment dans les mémoires, mais si la politique n'est pas une religion, elle n'est rien. Donc, on est surpris de lire une parole comme celle-là. Et en effet, le premier livre qui compte, mais il y en aura en effet beaucoup d'autres, les écrits historiques qui sont politiques, les quatre Stuart, que sais-je, et puis les mémoires d'Outre-Tombe, toute une partie des mémoires sont consacrées à Napoléon. Donc, l'essai sur les révolutions est publié en 1797, après un très long exil en Angleterre, car après l'armée des princes, il est malade, il est atteint de petites véroles, rentrantes et sortantes, il paraît que c'est plus grave encore que toute autre maladie, il est blessé au siège de Thionville, Thionville d'ailleurs se défend, et l'armée du prince de Condé est dissoute, Et on sait que Brunswick, eh bien, après, Fleurus disparaît et se retire de France. Et il va gagner tant bien que mal, aidé par les uns et par les autres. Il y a de très belles illuminations. Une jeune bohémienne qui vient en aide, qui au bord d'une fontaine alors qu'il est évanoui. Et les femmes sont toujours là présentes autour de Chateaubriand pour le sauver. Mais il arrive en tout cas plus mort que vif, après être passé par Jersey où les Bédés se sont réfugiés. Il arrive à Southampton et là, il mène une vie misérable, mais toujours en compagnie d'amis. Et ses amis sont d'anciens parlementaires du Parlement de Bretagne. Donc, il y a une amitié armorique. Il a combattu dans la compagnie armoricaine aussi. Donc, cet acharnement breton reste très fort. Et lorsque un de ses amis, Pelletier, qui dirige un journal, une petite feuille, lui dit mais qu'il lui conseille d'écrire un ouvrage sur la Révolution, eh bien, que va-t-il faire ? Il va se retirer comme précepteur, ce qui n'est pas glorieux pour un ancien Chateaubriand, et donc il le cachera toujours dans le Suffolk, mais c'est là qu'il va réunir tous les éléments d'une histoire comparée. Vous avez donc donné le titre tout à l'heure, extrêmement précis, très long, au goût de l'époque, mais il ne va en fait comparer que les révolutions grecques et les révolutions modernes. Par révolution moderne, il faut entendre la révolution anglaise, donc celle de 1648-1688, enfin les deux révolutions, et puis celle de 1789, dont en 97, vous avez fort raison de le rappeler, bien la révolution se continue. François Furet, d'ailleurs, l'a fait se poursuivre jusqu'en 1884, jusqu'à la Troisième République, alors qu'elle n'est jamais terminée. C'est vrai que la France va de révolution en révolution, de constitution en constitution. Donc, pronostic, c'est cela la question que se pose Chateaubriand. Que va-t-il se passer ?
Est-ce qu'il n'y a pas chez Chateaubriand un certain déterminisme ? Est-ce qu'il ne recherche pas dans l'histoire, vous l'expliquez dans votre livre, justement la clé de l'avenir ?
Oui, sans vraiment la trouver. Parce qu'il compare les révolutions grecques, il compare les Jacobins et la réforme de Lycurgue. C'est aussi une mode de l'époque. Il suffit de se reporter à la phraséologie républicaine ou jacobine pour voir effectivement l'importance envahissante, déterminante qu'a l'histoire ancienne, grecque et romaine, et plus encore grecque. Solon est partout. Jean-Jacques Rousseau voit un nouveau Solon pour donner au peuple qui n'est pas capable de la concevoir, une constitution. Donc c'est une réflexion sur le temps, sur l'époque, et on aperçoit Chateaubriand, on transparaît à Chateaubriand qui est peu connu, d'une part très différent de l'auteur de 1802, c'est-à-dire l'auteur du génie du christianisme, car là il est plutôt épicurien. « Je n'ai d'autre religion que celle d'Épicure », dit-il. Il voit une religion chrétienne allant vers l'abîme, bien qu'il y ait quelques bons prêtres par-ci par-là, et puis une monarchie à laquelle il se rallie plus par raisonnement que par passion. Au fond. Chateaubriand a dit beaucoup plus tard, en 1831, « Je suis bourboniste par honneur, monarchiste par raison et républicain par nature. » Eh bien, ces trois éléments-là sont déjà enclos, pourrais-je dire, dans cet essai sur les révolutions. Et constamment, dans ce livre à tiroir, car il y a constamment des chapitres, suite de chapitres et ainsi de suite, eh bien, on voit en effet Chateaubriand comparer ces révolutions, s'intéresser particulièrement aux Jacobins. Et il en montre là, je crois, dans cette comparaison, tout ce qui les différencie des Spartiates, de l'Acédémonien qu'il a étudié dans son enfance. Car tout ce monde, encore une fois, est pétri d'humanité classique. Mais ce qu'il montre, je crois, de manière tout à fait frappante, c'est le caractère, et le mot n'est pas prononcé parce qu'il n'existe pas, totalitaire de la révolution jacobine. C'est-à-dire qu'il faut tout changer, régénérer l'homme, mais le régénérer de fond en comble. Donc, il faut tout changer.
c'est un précurseur. Parce que quand nous évoquions l'histoire tout à l'heure, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Auguste Comte, le fameux savoir pour prévoir afin de pourvoir. La connaissance de l'histoire permet de prédire l'avenir. Là, vous le présentez comme un homme qui a suffisamment de recul sur les événements pour voir l'émergence du totalitarisme, qui sera un terme que l'on ne verra apparaître qu'au début du XXe siècle, au fond.
Bien sûr, bien sûr. Mais je crois que ce qui prépare Chateaubriand à cette analyse, c'est au fond son relatif, même si l'honneur est présent, son relatif détachement ou scepticisme à l'égard des formes politiques. Il est monarchiste, sans doute. C'est la meilleure solution qui convient dans une période de transition. Mais il est frondeur, donc républicain, c'est une sorte de réaction personnelle, mais pas du tout républicain comme le sont les Jacobins, qui, pour lui, ont véritablement pris le peuple un peu en otage et veulent lui donner, changer tout. Son langage, ses habits, ses coutumes, le nom des rues, tout change. Et donc, créer autour de lui, pour implanter sans doute cette république nouvelle, eh bien, changer tout ce qui était les attaches, les allégeances, les souvenirs communs. Et il insiste beaucoup sur les rapports, la fidélité, l'honneur, tout ça disparaît. On peut trahir son frère ou sa famille parce que c'est au nom de cette république à créer. Donc il y a là un petit groupe d'hommes qui mène l'ensemble qui mène la révolution. Et évidemment, l'expérience qu'il en a, c'est celle de 93-94, celle de la terreur. Et cette période-là est pour lui un bouleversement qui n'a pas d'exemple dans l'histoire de l'humanité.
Est-ce qu'il scinde la révolution aujourd'hui dans les études historiques? Nous avons tendance à isoler l'avant 1793 de l'après 1793. Est-ce qu'il fait cette distinction?
Alors il y a certainement, comme chez Madame de Staël par exemple, la distinction entre la révolution qui est acceptable et puis celle qui dégénère complètement en une sorte de terrorisme. Mais de manière moins marquée, puisque, je le disais tout à l'heure, c'est l'assassinat de Foulon et Berthier qui décide en 91, enfin 90, de son départ vers l'Amérique, donc de voyager, de découvrir autre chose, de sortir de ce monde qui est, et ça c'est aussi une pensée rousseauiste, qui est à la fois corrompue et qui, parce qu'elle est corrompue, ne peut rien générer de véritablement vertueux, c'est-à-dire une république vertueuse, même s'il y est plus ou moins attaché.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas au fond une contradiction justement entre ce respect de certains principes de la Révolution française et puis d'un autre côté ce rejet de toute évolution marquée par cette exacerbation de la Révolution?
Bien, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, et c'est déjà présent dans l'essai sur la Révolution, car, encore une fois, il y a une très grande continuité chez un homme qu'on présente souvent comme versatile. Une très grande continuité, c'est-à-dire qu'il y a de bonnes choses, et en particulier, il rend hommage au cahier de doléances. Il dit « tout y est », parce que les réformes sont raisonnables. Et pour lui, c'est évidemment très, très différent aussi de la conception de penseurs du XVIIIe siècle, je pense à Condorcet par exemple, pour lui, il y a une continuité. Ce qui est la vérité réside dans l'histoire, dans la durée. Et donc les choses évoluent lentement. Peut-être aussi y a-t-il quelques références implicites à Edmund Burke, ses considérations sur la Révolution française. Et il l'a rencontré, Burke, à plusieurs reprises, il le dit dans les mémoires. C'est-à-dire qu'il y a une trame qu'il faut surtout ne pas rompre. Et la Révolution a ouvert véritablement pour lui un abîme entre deux mondes. Et sa grande aspiration, qui est une aspiration politique, ce sera de renouer, comme Louis XVIII, mais par l'esprit, par la pensée, par les essais, de renouer la chaîne des temps. c'est-à-dire de rétablir la continuité de l'histoire. Mais non pas en revenant à l'ancien régime, comme le pensent beaucoup d'ultras, car ils pensent que ce qui est fait est fait. Il le dit, un fait est un fait. On ne rétrogradera pas à 1492, c'est impossible. Il y a une continuité de l'histoire et il est impossible de faire une contre-révolution. Mais il faut conserver ce qui est de bon dans la révolution et, dit-il, ce qui subsiste, c'est l'idée de liberté par rapport à ce qu'était la défense des privilèges. Mais une liberté où, évidemment, un certain nombre d'hommes tels que lui, parce qu'il y aspira sous la Restauration, sont un peu on dirait aujourd'hui, des leaders d'opinion, qui à la fois s'enracinent dans le passé et puis nagent, selon son expression, avec espérance, vers un avenir qu'il ne connaîtra pas, mais dont il a le pressentiment.
Je reçois Jean-Paul Clément et nous évoquons le Chateaubriand politique. Nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, après une seconde pause.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.
Bonjour, c'est Hélène Renard. Je vous invite tous les jours sur Canal Académie pour l'émission Au fil des pages. L'actualité littéraire, les livres des académiciens, ceux dont ils recommandent la lecture, ou encore les ouvrages déposés sur le bureau de l'Académie des sciences morales et politiques lors des séances. Chaque jour, je vous invite à la lecture, à la découverte de l'histoire, de la société, des femmes et des hommes qui font l'actualité littéraire. C'est dans Au fil des pages. À tout à l'heure.
Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Jean-Paul Clément, spécialiste de Chateaubriand, correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, nous évoquions, Jean-Paul Clément, cette continuité. Alors, il y a une continuité que souligne Chateaubriand, et là encore, on le sent en avance sur son temps, puisque cette continuité sera évoquée notamment à la fin du XIXe siècle par l'historien Albert Sorel, c'est la continuité entre l'absolutisme et la Révolution française. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une séparation entre la monarchie et la Révolution. La Révolution est un produit de l'absolutisme capétien.
Tout à fait raison. Et il le dit sans doute dans l'essai sur la Révolution. Mais s'il y a un autre ouvrage très peu connu qu'il faut citer, ce sont les essais historiques de 1831, qui sont écrits à toute vitesse, presque pour des raisons alimentaires. Mais dans cet essai sur la Révolution, il y a une analyse raisonnée de l'histoire de France. Et il montre le lien profond qui s'établit entre Louis XI, que je citais tout à l'heure, Richelieu et Mazarin, mais déjà dès les Bourbons, dès Henri IV, la chose est présente, la Révolution et Napoléon Ier. C'est-à-dire que cette sorte de mainmise de l'État sur la société, cette sorte d'envahissement de l'État, de despotisme légal, pourrait-on dire, eh bien, est présent et a été préparé. Et au fond, la Révolution ne fait qu'accomplir les desseins de la monarchie. Certes, sans le monarque, mais l'accomplit tout de même. Et le provincial qu'il est, l'aristocrate qu'il est, etc., a bien vu tout cela dans l'essai sur les révolutions. Et puis, eh bien, la révolution, elle, va plus loin, renverse un pouvoir faible qui hésite, liquide la faiblesse, qui est celle de Louis XVI, qui n'a pas mené à terme les réformes, et accouche de la force. Mais c'est la même idée, c'est-à-dire que l'histoire de France est en quelque sorte singulière, puisque la monarchie prépare cette révolution et toutes les réformes du XVIIIe siècle, aidées par les philosophes, qui, comme Voltaire, sont partisans du despotisme éclairé, par exemple, eh bien, toutes ces idées, toute cette sorte d'ébullition des idées, préparent l'avènement d'un État qui est un État autoritaire, mais la monarchie absolue l'a préparé. Et il insiste beaucoup, peut-être en accentuant un peu le contraste, entre les Valois, pour lesquels il a une faiblesse, parce que ça lui semble une sorte d'époque extrêmement libre, demeure, où les États, où l'ancienne nation organisée, en quelque sorte, existe encore. Et puis les Bourbons, dont il décèle la tendance autoritaire, encore une fois, dès Henri IV, et encore plus sous Louis XIII, enfin avec Richelieu. Donc, ce fénelonisme de Chateaubriand est, je crois, la clé qui permet de comprendre un peu son histoire de France, qui est une histoire continue et qui va jusqu'à Napoléon Ier. Alors, au moment de la Restauration, eh bien, il va essayer de... Mais il est un peu isolé. Il n'est allié ni avec les impériaux, comme on les appelle, ou les impérialistes. Les ultras se méfient de lui ou le détestent. Louis XVIII n'a pas de grande inclination pour un poète. Et donc, il se retrouve assez seul, si ce n'est à travers le journalisme et la presse. C'est-à-dire que toute la carrière politique de Chateaubriand passe par les discours, la presse, les essais.
Avant d'évoquer ce passage à la Restauration, peut-être un sentiment sur le Chateaubriand pessimiste. Il ne peut guère avoir d'espérance, au fond, sur ce temps long depuis Richelieu, depuis Henri IV. Il considère qu'il y a une croissance de l'État. La Révolution montre, selon lui, une atomisation de l'individu. Est-ce que il n'y a pas chez Chateaubriand un pessimiste au convaincu ?
Il y a un pessimisme foncier et en même temps une foi dans l'importance des idées.
Et il croit aux idées.
Il croit aux idées. Et en particulier à cette idée de liberté. Et qu'à un moment ou l'autre, eh bien, elle l'emportera sur un autre sentiment qu'il a décelé chez les Français et qui fait le fond pour lui de la Révolution, c'est l'égalité. Au fond, on a parlé constamment de liberté en 1789. Ce qu'on recherchait en fait, c'était l'égalisation des conditions.
Et là encore, c'est un précurseur de Tocqueville.
Donc, on va vers cela, mais la liberté de la presse, par exemple, dont il sera tout de même l'un des héros, dans tous les sens du terme, mais puisqu'il sera même, en 1831, mis en prison pour avoir écrit une brochure de défendant la duchesse de Berry. Mais il est vraiment le défenseur de la liberté de la presse, qui lui semble le seul contrepoids au pouvoir. Et c'est le tribunal de l'opinion pour lui. Alors, encore faut-il que la presse en soit digne. Mais c'est le tribunal de l'opinion. Et puis les chambres, et la chambre représentative, la chambre des pairs, avec bien les aristocraties anciennes et modernes. C'est aussi une occasion de renouer les fils entre les temps. Tout cela compte évidemment dans sa pensée. Quant au pessimisme, je crois qu'il est moins politique que social, ou pourrait-on dire même sociétal. C'est-à-dire que, pour lui, les Lumières vont de pair avec la corruption des mœurs. Et plus on avance, plus le progrès se fait et plus l'individu, à la fois qui est apparu avec la Révolution, s'affaiblit, s'étiole, perd ses convictions, perd ce qu'on appelle aujourd'hui ses points de repère. La religion se défait. Les hiérarchies se disloquent.
Alors justement, si vous me permettez de rebondir sur votre évocation, on ne peut parler de Chateaubriand sans évoquer le génie du christianisme. Quel est chez lui le lien entre religion et politique ?
Alors le lien est pour lui très étroit et bien sûr très différent du point de vue de Napoléon, enfin de Bonaparte à l'époque, qui voit dans la religion un des soutiens de l'État avec l'université réorganisée, l'armée. Donc l'Église a un rôle de protecteur de la société, de l'ordre social.
C'est ça. Mais Oui, et, mais là encore, il est précurseur d'un, d'un conte qui voyait en l'Église un élément sociétal très important.
Oui, bien que Auguste Comte voyait davantage dans la science et dans l'ordre des savants une substitution de l'ancien ordre de l'Église tel qu'il l'avait envisagé dans ses trois ordres, n'est-ce pas ? Donc alors que pour Chateaubriand, la religion est un ferment de liberté. Elle a, et c'est une métamorphose aussi chez un homme qui, comme je le disais tout à l'heure, était épicurien. Donc, elle est là pour assurer, non pas à proprement parler, l'ordre social, mais aussi, elle est un ferment de liberté. La dignité de l'homme, elle a, dit-il, sauvé la civilisation contre les invasions barbares, donc elle est le conservateur, si je puis dire, du trésor européen des Lumières, et il reprend le mot lumière au profit de l'Église. Donc, mais c'est le même mot dont se sont servis les philosophes du XVIIIe siècle. Mais les Lumières, elles sont là. C'est le conservateur, c'est le transmetteur, comme lui veut l'être aussi à l'époque de la Restauration, transmettre un passé. Et puis, il montre bien le lien qui, d'ailleurs, a été étudié au XXe siècle par le professeur Léo Moulin de Louvain, par exemple, qui a bien montré que les modes de votation, qu'un certain nombre de règles qui sont celles du régime représentatif, qui est un petit peu le rudiment d'un État libre, eh bien, ont été inventées par l'Église. Et il insiste beaucoup, à la fin de son ouvrage, dans le génie du christianisme, sur les rapports très étroits entre la liberté, la reconnaissance de la personne humaine en tant que telle, et surtout sur l'importance qui est, et opinion qui est partagée aussi par un Guizot, par un Tocqueville et par d'autres, que la société a besoin de religion, a besoin d'une religion pour se maintenir et rester, si je veux dire, assise. Parce que morale et société, morale et politique sont indissociables. Et ça, c'est un des grands thèmes du XIXe siècle.
Est-ce que chez Chateaubriand, le génie du christianisme est un génie du catholicisme ?
Plutôt.
Est-ce qu'il oui, il
plutôt.
S'oppose aux autres religions ?
Oui, alors l'islam, n'en parlons pas, il n'en parle pas dans le génie, mais il en parle dans ses pamphlets, dans ses discours à l'époque de la Restauration, c'est la fatalité organisée, le despotisme organisé, donc le protestantisme, eh bien, il prend une thèse tout à fait contraire à celle que défendra un jour Max Weber. C'est-à-dire que pour lui, le protestantisme est venu par le haut, c'est-à-dire par la noblesse, par les princes allemands, par d'autres, alors que le christianisme, le catholicisme est venu par le bas, par le peuple. Et, deuxièmement, pour lui, le protestantisme n'a rien créé dans le domaine des arts. Bon, ce qui est contestable, sans aucun doute, mais c'est encore une fois son point de vue. Et surtout, eh bien, il défend l'idée que c'est le catholicisme qui est le plus propice à l'éclosion et au maintien des libertés. Donc c'est une sorte de contre-apologie, si je puis dire, du catholicisme qui est présent dans son génie du christianisme, mais aussi dans les discours de la Restauration contre Bonald. Il est anti-bonaldien. Il ne veut pas de théocratie. Il veut effectivement une religion forte, reconnue, assise, ayant son indépendance. Mais on ne va pas reconstituer l'ordre du clergé. Il a été dissous en quelques semaines, en 1789. On ne va pas le reconstituer, c'est fini. Mais évidemment, il faut lui donner toute sa place dans la société et même peut-être... Il va là, sans doute un peu loin, lui rendre l'état civil, lui rendre une place prépondérante dans l'université. C'est le côté conservateur, évolutif, mais conservateur aussi, de Chateaubriand.
Alors revenons-en, Jean-Paul Clément, si vous le voulez bien, au penseur politique, et je dirais même à l'homme politique. Est-ce que l'intellectuel qui était Chateaubriand s'est égaré dans les arcanes du monde politique ? Est-ce que Chateaubriand fut un homme d'État ?
Ah, c'est une grande question. Qu'est-ce qu'un homme d'État ? Il a joué un rôle incontestable. Il a été trois fois ambassadeur. Il a représenté la France au Congrès de Vérone en 1822. Il a été ministre brièvement, mais il a été ministre pendant 18 mois des affaires étrangères, le seul ministère d'ailleurs qui vraiment l'intéressait, il en a écarté d'autres, il ne voulait pas être ministre de la marine ou des affaires religieuses ou de l'instruction publique. Mais c'est un homme qui est indépendant. Alors, comme je disais à propos des Jacobins, au roi, eh bien, il leur dit parfois leur vérité. Et les rois n'aiment pas ça du tout. Et donc, Chateaubriand est accepté par Louis XVIII, puis écarté lorsqu'il s'oppose à Villèle. Villèle se méfie, il est président du Conseil. Villèle est l'un des grands présidents du Conseil, mais très esprit prosaïque. Alors que Chateaubriand aurait... qui voit la politique à l'heure de la bourse. La politique ne se fait pas à la corbeille de la bourse, comme a dit un autre homme célèbre du XXe siècle. Eh bien, il voudrait ramener les Français, c'est Chateaubriand, ramener les Français aux réalités à travers les songes. Alors, c'est le côté peut-être un peu romantique aussi de Chateaubriand, mais il n'est pas un manœuvrier politique. Il est isolé, il a des alliés, qui se joignent à lui, à la Chambre des Pairs, à la Chambre des députés, mais ce n'est pas un manœuvrier, ce n'est pas un courtisan, et nous sommes encore à une époque, celle de Louis-XVIII, Charles X, où la cour, où les salons ont une importance considérable. Et donc, ne pas être bien en cour, ne pas aller aux Tuileries, eh bien, c'est un grave défaut. Et cette hostilité des rois, évidemment, compromet sa carrière politique, sa carrière diplomatique. Et puis, il donne trop de conseils. Lorsqu'il est ambassadeur à Berlin, il dit à son ministre qu'alors lui, un homme retors qui a passé par toutes les phases de la vie politique, qui est le chancelier Paquier, enfin, le futur chancelier Paquier, qui est ministre des Affaires étrangères, il lui donne des conseils de politique intérieure. Madame de Duras se dit, mais écoutez, allez au château d'Artwell, où 18 a passé les derniers moments de son exil avant d'être restauré, il lui dit, mais allez-y, faites votre cour, faites une dépêche sur Artwell. Elle le fait de mauvaise grâce. Et puis il nous montre un château complètement délabré. Et il envoie cela au roi. Donc il est très maladroit dans cette carrière politique. S'il avait été beaucoup plus adroit, s'il avait eu des idées moins décisive, si je puis dire, il a certainement fait une carrière beaucoup plus longue. Louis-Philippe lui propose les affaires étrangères en 1830, mais il refuse, parce qu'il reste fidèle à une monarchie dont, en même temps, il sait qu'elle est... Enfin, la monarchie des Bourbons, de la branche aînée, d'autres, en même temps, il sait qu'elle est perdue, qu'elle est finie. Mais il restera tout de même, par honneur et poésie de l'honneur, il restera attaché à cette dynastie. Donc, c'est deux éléments, à la fois un très grand réalisme sur la situation, sur le temps où il vit, et le journalisme en est témoin. Et puis, il y a cette vieille idée de l'honneur aristocratique qu'il veut défendre coûte que coûte. Et les deux éléments vont mal ensemble et donc expliquent en grande partie l'échec, ou le semi-échec en tout cas, de Chateaubriand.
Vous êtes sur Canal Academy et Un jour dans l'histoire reçoit Jean-Paul Clément, historien, écrivain et auteur du livre Chateaubriand aux éditions Flammarion, dans la collection Grande Biographie. Nous nous retrouvons dans un instant.
Vous écoutez Canal Académie.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie se penche sur la construction européenne, les frontières de l'Europe d'un point de vue historique, l'Europe vue du monde arabo-musulman, l'Europe médiévale, l'Europe et les femmes. Radio-Canal Academy vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Radio-Canal Academy.
On retrouve Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Jean-Paul Clément, correspondant de l'Institut, et nous évoquons un Chateaubriand moins connu et pourtant bien important, qui est le Chateaubriand politique. Alors, il y aurait bien d'autres aspects à évoquer sur ce Chateaubriand politique, mais je voudrais m'arrêter bien évidemment sur la charte de 1814. Quelle place a cette charte dans la pensée politique de Chateaubriand ?
Essentiel. C'est pour lui l'arche sainte entre les deux mondes que j'évoquais tout à l'heure. Et l'interprétation qu'il va donner en 1816, dans son essai de la monarchie selon la charte, est une vision extraordinaire, parce qu'il montre comment cette charte, qui est relativement courte, avec un droit public des Français, quelques institutions dont on ne fait qu'esquisser le fonctionnement, eh bien, il en fait véritablement un régime représentatif, on pourrait dire parlementaire, avec le rôle du roi relativement restreint, les assemblées, elles, ayant un rôle d'initiative, ce qui n'était pas reconnu dans la charte, et surtout, et nous retrouvons là aussi cette même idée, c'est-à-dire que la liberté de la presse, l'opinion, est l'élément important. C'est-à-dire que lui qui refuse la souveraineté telle que les Jacobins l'ont inventée après Jean-Jacques Rousseau, imagine une sorte de souveraineté de l'opinion. Et cette souveraineté de l'opinion, eh bien, elle est là, le ministre doit être connu, doit s'exprimer, et responsable, non seulement devant les chambres, mais devant le pays. Et il conçoit, par exemple, aussi l'idée d'une alternance. C'est-à-dire qu'une opinion triomphante l'emporte, eh bien, le roi constitue un gouvernement conforme à la majorité triomphante. Et puis, cette majorité perd les élections, il la remplace par une autre majorité conforme également aux nouveaux résultats des élections. Donc, un système qui est un système très ouvert, très libéral, et
qui s'apparente à une monarchie constitutionnelle.
Une monarchie constitutionnelle. Je crois que l'influence de l'Angleterre n'est pas totalement étrangère. Il a vu fonctionner la Chambre des communes, il s'est imprégné des institutions anglaises, et c'est une transposition à la française. Il faut tenir compte du roi, de l'autorité historique qu'il représente encore. Nous ne sommes pas très loin du pouvoir neutre qu'a défini Benjamin Constant, par exemple, sur le roi. Mais par contre, en période de guerre, de grande crise nationale, alors là, pense-t-il, le roi doit reprendre toute son autorité. Mais surtout ne pas être un monarque absolu.
Alors justement, paradoxe dans l'œuvre de Chateaubriand, en 1830, la monarchie de Juillet arrive et pourtant Chateaubriand se pose en légitimiste.
Et oui, il se pose en légitimiste tout en étant détesté par les ultras
les ultras royalistes.
Royalistes qui l'attaquent dans la Gazette de France et dans d'autres journaux. Mais là, je crois que c'est son attachement à la légitimité, au sens grand L ou petit L, c'est-à-dire la légitimité. Louis-Philippe, pour lui, a usurpé les droits d'un jeune monarque qui était le duc de Bordeaux, Henri V. Et donc, il en fait, je veux dire, une sorte de poème de la vie et de la mort. Et c'est un peu une préface testamentaire que cet attachement a une vieille dynastie qu'il a dédaignée, qui ne lui a donné que de maigres compensations, mais qui donne, dira-t-il, de l'unité dans sa vie, unité politique. Et donc, on ne l'imagine absolument pas se ralliant à une monarchie, tout en utilisant des termes extrêmement vifs, enfin, une monarchie filoutée.
Quelle aurait été sa réaction ? On va faire, si vous le voulez bien, Jean-Paul Clément, un peu d'Uchronie. Qu'aurait-il pensé en 1848 ? Il meurt en 1848, Chateaubriand. Et comment aurait-il réagi face à la Révolution ?
Le sentiment qu'il l'aurait accepté assez bien. Assez bien. D'une part, par hostilité à l'égard de Louis-Philippe. On lui prête ce mot qui est plus ou moins juste. C'est bien fait lorsqu'il apprend cela. Il meurt le 4 juillet 1848. Les émeutes de juin donc viennent de se dérouler. Et républicain, il l'est par son indépendance. Même Madame de Chateaubriand, qui est ultra, très attachée aux traditions, etc., elle aussi dit « mais je n'ai rien à craindre de la République. D'ailleurs, nous sommes nés à Saint-Malo, et Saint-Malo a été une République. Nous n'avons rien à craindre. » Et c'est, je crois, cette indépendance d'un homme qui n'a cessé de défendre envers et contre tout, contre Napoléon, dont il a tout de même, il aurait pu faire une belle carrière sous l'Empire, il ne l'a pas faite, de défendre cette idée, je veux dire, qui a dévoré, dira-t-il, toutes ses convictions, c'est-à-dire la liberté.
Nous arrivons, Jean-Paul Clément, au terme de cette émission. Est-ce que Chateaubriand fut, au fond, un réaliste politique en dehors de son époque, ce qui ne lui a pas permis d'avoir un rôle politique majeur?
Mais oui, parce que je crois qu'il faut quand même beaucoup d'opportunités pour être vraiment accepté par et vivre et développer une carrière dans le sérail politique. Et il a toujours été considéré comme quelqu'un d'autre, un étranger à ce sérail. C'est un poète. Gardez-vous de prendre un poète dans vos conseils, dit Louis XVIII. Napoléon dit à peu près la même chose à son frère Joseph. Ce sont des coquettes, des divas, enfin, je ne dis pas divas, mais coquettes, dont il faut se méfier. Donc, l'écrivain a, en quelque sorte, caché, jusqu'à nos jours, pourrait-on dire, l'autre Chateaubriand, qui est le Chateaubriand politique, qui, encore une fois, mérite d'être redécouvert.
Jean-Paul Clément, je vous remercie. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur Chateaubriand. J'en citerai deux. Tout d'abord, une biographie parue chez Flammarion dans la collection Grande Biographie, ainsi qu'un petit ouvrage Chateaubriand, des illusions contre des souvenirs, dans la collection Découvertes Gallimard. Les Découvertes Gallimard étant des petits ouvrages, j'allais dire, de vulgarisation, bien imagés. Eh bien, Jean-Paul Clément, je vous remercie et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine. Merci et à bientôt.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.